du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Voilà, après ce moment de recueillement et de prière, quel plaisir de vous retrouver pour ce Présence Midi. Avec au sommaire de ce magazine, on va parler d'une très belle association, ça s'appelle l'UNAFAM. C'est l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques. C'est une association reconnue d'utilité publique. Et notre correspondante Pauline Cazier s'entretiendra avec Michel Comte, délégué régional pour l'Occitanie, et l'UNAFAM de l'UNAFAM, et Christian qui est bénévole donc dans cette belle structure. Ce sera le reportage de la mi-journée. Et puis on retrouvera un jour un livre, un auteur, avec Philippe Loni et Diego Rabal. On va s'intéresser aux chiffres de cette rentrée littéraire. Plus de pratiquement 500 livres sont sortis en septembre, et vous allez vous apercevoir que les chiffres sont incroyable. Beaucoup de gens écrivent, très peu sont qui vont réussir à avoir un livre, et sur ceux qui ont un livre, il y en a peut-être certains qui vont en vendre 50, 60, 100 exemplaires. Il n'y a qu'un pour cent de ces livres qui dépassent les 5000 exemplaires, donc c'est assez incroyable, et tout le reste est brûlé au bout d'un certain temps. On va parler de cette rentrée littéraire sous un autre angle, et puis on aura bien sûr la vision d'une libraire, celle qui est avec nous déjà, la librairie Bleu et Or de la Vallée d'Or, pour nous dire ce qu'elle en pense de cette rentrée littéraire et de tous ces gens qui écrivent et qui ne seront peut-être jamais publiés. Par exemple, l'Arcane 17, vous allez l'entendre, ils reçoivent pratiquement 100 tapuscrits par jour. Voilà. En attendant de retrouver un jour un livre, un auteur, on écoute ce disque que vous avez sincèrement reconnu. Ce sont les Valses de Vienne, interprétées par François Fellman. Très belle fin de matinée à notre compagnie.
Du pont des supplices tombent les actrices, et dans leurs yeux chromés, le destin s'est brouillé. Café de flore, la faune et la flore, on allume le monde dans une fumée blonde. Maintenant, que deviennent les valses de Vienne? Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pendant ces années? Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Maintenant, que deviennent les valses de Vienne et les volets qui grincent d'un château de province? Aujourd'hui, quand tu danses, à quoi tu penses? Dans la Rome antique, les Romains, les amours infidèles s'écrivent sur logiciel du fond de la nuit. Remonte l'ennui et nos chagrins de môme dans les pages du grand monde. Maintenant, que deviennent, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pendant dans ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Maintenant que deviennent les valses deviennent et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, dis-moi à quoi tu penses. Pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes.
Si tu m'aimes.
Maintenant que deviennent les valses deviennent et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, dis à quoi tu penses.
Présence à Aspect 94.1.
Truc et ficelle, troc et combine, de Neuchâtel aux Philippines, fut en flanelle sur Moleskine, de grand hôtel en limousine. Polichinelle, voyage en Chine. T'as du nickel, j'ai des usines. T'as du platine, mais pas de bretelles. Ton archipel pour ma turbine. Tu pousses ton fou, je te prends ton roi. Toi ta Cuba, moi ton Bouctou. Tu prends le Pérou, moi l'Angola. Truc et ficelle, troc et combine. D'Aix-la-Chapelle à Constantine. Du grand cocktail ou lombadine. À la demoiselle très très câline. Qu'à des roussels à trois vitrines. Des caravelles et de l'aspirine. T'as des cervelles qui t'enquiquinent. Tu démantèles, moi j'endoctrine. Et si je recule mon cavalier, tu prends mon pion mais moi ta tour. Si je te laisse faire à Singapour, ça fait rentrer 1000 tonnes d'acier. Truc et ficelle, troc et combine. De Compostelle à Tien-Sin-Sin. De grand cartel en saccharine. De clientèle en cocaïne. Fais mes usines en Israël. T'as des diesels mais pas de benzine. J'ai de la farine, t'as pas de cheptel. De colonel pour ta ballerine. Tu pousses ton fou. Je te prends ton roi. T'as Panama pour faire joujou. Touche au papou, je prends l'Ouganda. Truc et ficelle, troc et combine. De Neuchâtel aux Philippines. Fut en flanelle sur Moleskine. De grand hôtel en limousine. Papa Noël en Palestine. T'as de la Javel, j'ai pas de piscine. T'as des rebelles qui se mutinent. Un caramel, une carabine. Et si j'avance un peu ma reine, te v'là bloqué sur les deux cases. Un incident près du Caucase. Échec et mat à moi l'Yémen. Truc et ficelle, troc et combine. Truc et ficelle, troc et combine. Truc et ficelle, troc et combine.
Radio Présence à Belmont-sur-Anse 93.1.
L'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, est une association reconnue d'utilité publique qui accompagne l'entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques. Le 9 septembre dernier, ses bénévoles et adhérents et sympathisants se sont réunis à l'UDAF 32 à Auch afin de préparer l'année à venir. Rencontre à cette occasion avec Michel Comte, qui est le délégué régional pour l'Occitanie de l'UNAFAM, et de Christian, qui est bénévole. Ils sont tous les deux au micro de Pauline Cazier.
L'Union nationale des familles et des proches de personnes souffrant de troubles psychiques, voilà, qui a été fondée en 1963 un moment assez particulier, c'est au moment où on a considéré que la place des personnes qui avaient des troubles psy était dans la cité. Donc on a voulu développer le soin ambulatoire, l'accompagnement, en mettant en place notamment les CMP, les centres médicaux psychologiques. Et du coup, ça a interpellé les familles, parce que les familles se sont retrouvées au sein du dispositif de santé mentale, puisqu'elles ont eu parfois, malheureusement, quand ça n'a pas toujours fonctionné, à reprendre ou à prendre en charge leurs proches. Chez eux, ou voilà, c'est ce qui s'est passé en 1963. Donc nous, notre mission aujourd'hui, c'est celle d'accompagner les aidants, donc les familles, tous les proches, les conjoints par exemple, les pères, les mères, les conjoints, parfois les enfants, ça arrive quelquefois, les grands-parents, quelquefois ça peut être des amis, hein, on est, mais globalement lors des visites à l'accueil, alors c'est majoritairement des parents qui viennent, surtout des mères d'ailleurs, les trois quarts sont des mères, hein, qui s'investissent le plus dans l'accompagnement de leurs proches souffrant de troubles psy. Au niveau national, l'UNAFAM, c'est 16 000 adhérents aujourd'hui, en progression. Alors, ce qui veut dire, est-ce que les troubles psy progressent ? Sans doute, mais par ailleurs, la prise de conscience aujourd'hui et la déstigmatisation progresse, hein, et on le voit bien, parce que 2025, la grande cause nationale, c'est la santé mentale, hein, donc ça a été construit de cette manière-là et décidé de cette manière-là. On a, au-delà des 16 000 adhérents, on a 1600 bénévoles au niveau national, 359 sites d'accueil, et en Occitanie, hein, pour parler de l'Occitanie de manière plus précise, on a 1600 adhérents, 180 bénévoles, et plusieurs dizaines de sites d'accueil dans chacun des 13 départements. Voilà, donc nous sommes organisés, il y a une délégation régionale qui est basée à Montpellier aujourd'hui, et 13 délégations départementales, dont la délégation du Gers, justement, qui est une délégation qui a, on dira, traversé des moments un tout petit peu plus difficiles à une époque, il y a quelques mois, et qui aujourd'hui se reconstruit, avec la volonté de quelques bénévoles et l'appui de la délégation régionale. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour continuer à aider la délégation à se reconstruire, à reprendre en main les missions, et notamment les premières missions de l'UNAFAM. La toute première, et celle qui vraiment fonde l'UNAFAM, je dirais, c'est l'accueil, c'est recevoir les familles, parce que ces familles-là sont en attente parfois de réponses, d'accompagnement, d'explication. On dit mettre des mots sur les mots, hein, M-O-T-S et M-A-U-X. Donc on est là pour ça, pour les accompagner. On a une offre, on pourrait appeler une offre de service quelque part, de la part de l'UNAFAM, que l'on propose au terme, au début d'un parcours d'accompagnement. On a d'autres point sur lequel nous intervenons, notamment nous avons un groupe de parole qui va à nouveau fonctionner au sein du département, là, dont la première réunion est le 16 septembre. Nous avons quelques familles aujourd'hui qui vont y participer. Ce que nous souhaitons, c'est l'étendre à d'autres familles, hein. On est au tout début, mais les choses semblent se présenter de manière plus positive. Le groupe de parole pour nous est essentiel, parce que c'est un moment où on peut parler, hein, sur le groupe de parole, et puis partager avec d'autres ce que l'on vit, hein, et donner du sens à une action qui est en train de s'installer.
Pendant ces groupes de parole, quelles sont les personnes qui encadrent ? Est-ce qu'il y a des psychologues, des...
C'est un ou une psychologue qui est là, et qui va encadrer, oui, participer et animer le groupe de parole, accompagné d'un coordinateur, d'une coordinatrice, une femme, qui est là pour la partie pratique, la partie administrative, etc., pour s'assurer que tout se déroule bien, parce que le psychologue est vraiment là pour la partie parole, hein, expression des personnes présentes. Donc c'est des réunions une fois par mois, hein, pendant une année, hein, donc, et normalement on renouvelle. L'idée, c'est que les personnes puissent pendant plusieurs mois, voire peut-être quelques années, retrouver et redonner du sens à leur vie, et être accompagnées à la fois par l'UNAFAM, mais par les autres aidants. Le rôle, c'est vraiment la notion d'aidant, c'est là-dessus qu'on s'appuie, c'est là-dessus que sont construites toutes nos missions. On a notamment aussi une offre de formation à destination des familles aujourd'hui, qui permettent de mieux comprendre et de mieux s'approprier la maladie de son proche, C'est pour l'instant, on n'en fait plus dans le Gers, pour les raisons dont on a évoqué tout à l'heure, mais les départements, les autres départements de l'Occitanie mettent à disposition les formations qui sont organisées. Il n'y a pas de problème, un aidant peut participer à ces formations. Elles sont entièrement gratuites, ce sont des formateurs formés, hein, mais elles sont entièrement gratuites dans la mesure où c'est de l'argent public, c'est le CNSA hein, qui nous finance, donc il suffit de s'inscrire, de dire je suis intéressé, et on peut avoir accès à ces formations. On a des ateliers, notamment ce qu'on appelle l'atelier prospect, qui est un atelier très intéressant sur 3 jours, et là qui permet réellement de gérer, si je vais utiliser une expression, c'est de poser son sac à dos quand il est très lourd.
On parle de maladies psy, quelles sont-elles? Évidemment, il doit y avoir un grand spectre.
Pas tant que ça. Nos interventions aujourd'hui, c'est surtout autour de la schizophrénie, la bipolarité, des troubles anxieux sévères, des états limites borderline et les TOC. Bah, c'est essentiellement là-dessus qu'on est. Parce que c'est les plus graves, c'est les plus importants. Il y en a d'autres, hein, et à la limite, une famille viendrait nous voir pour d'autres troubles psy, on ne les jetterait pas dehors, au contraire, ils participeraient, ils seraient là. Mais aujourd'hui, on a 3% de la population mondiale qui est concernée, donc ce n'est pas neutre, hein, 3% le même niveau à peu près en France et dans notre région, ce qui fait sur le Gers, on ne doit pas être loin de 6000 personnes concernées par les troubles psy sévères. Donc, ce qui est pas mal, et si on rajoute les familles qui sont impliquées au quotidien, on arrive à 15 000 personnes. Pour un département qui a 170 000 habitants, on est à 9%. C'est pas neutre. C'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu national, c'est un enjeu de bon fonctionnement de la société. Et c'est pour ça que notre grande action aujourd'hui, c'est de déstigmatiser, de dire les personnes avec troubles psy, c'est des gens qui ont leur place dans la cité. Il suffit de les accompagner, il suffit que l'offre de santé aujourd'hui soit adaptée, mais l'offre d'accompagnement, l'offre médico-sociale, que ce qui est pour nous essentiel, c'est que ce retour dans la cité se passe au mieux, et la notion de rétablissement aujourd'hui est importante. La maladie, sans doute, ne disparaîtra jamais, mais le rétablissement, il sera là pour que ces gens-là retrouvent une vie, retrouvent une estime d'eux, hein, et puissent... Pourquoi pas retravailler? Un certain nombre aujourd'hui retravaillent ou travaillent, ont un logement, ce qui est important. Avoir un toit au-dessus de la tête, c'est essentiel pour vivre. Donc, c'est vraiment nos objectifs aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est là.
Comme beaucoup d'associations, et particulièrement chez vous, vous avez besoin de bénévoles. Alors, je vais me tourner vers Christian. Christian, vous êtes bénévole. Est-ce que vous acceptez de témoigner de votre expérience dans l'association?
Oui, enfin, moi, l'expérience est relativement récente. J'ai été adhérent de l'UNAFAM. Et puis, j'ai voulu un peu rendre ce que m'avait apporté l'UNAFAM. Donc voilà, je suis passé bénévole. Voilà. Donc, dans mon entourage, voilà, j'ai une personne qui est malade. Je participe, je donne un coup de main. On essaie de mobiliser, on essaie d'informer. On va essayer d'accueillir. Voilà. Tout un travail de mobilisation, de sensibilisation, d'information.
Alors vous en cherchez évidemment d'autres, oui, en plus que Christian.
On a quelques autres personnes, hein, effectivement, mais on a besoin de militants. Hein, je dirais, c'est presque une activité de militants, hein, de gens qui ont envie de s'emparer de ce sujet-là, parce que... Quand on vient à l'UNAFAM, on y vient d'abord dans un premier temps, et on y est tous passés, hein, comme Christian, pareil, je suis concerné par la maladie d'une proche. On a tous eu besoin de cette écoute, de ce coup de main que l'UNAFAM nous a donné, et qu'on a effectivement, et je confirme ce que vient de dire Christian, envie à un moment donné de le rendre. Mais on le rend aussi pour une raison, c'est parce que ça fait partie de notre construction à nous en tant que proches. Quand on participe aux activités de l'UNAFAM, on se reconstruit. On se reconstruit, on est mieux. Et quand on est mieux, nous, proches, la conséquence, c'est que notre proche malade, il est mieux en général. Il est mieux parce qu'on arrive à recommuniquer avec lui, à retisser des liens, à mettre en place des passerelles. Ça qui est important, ce qu'on dit à des personnes, si vous voulez être bénévole, c'est pour vous, vous allez le faire. Pour votre proche et pour vous, ça va aller nettement mieux. Vous le verrez, au bout de quelques temps, vous sentirez les choses différemment. Et ce parcours, qui était souvent un parcours de galère, mais quelquefois c'est l'enfer, hein, il change, ça devient autre chose. On ne fait pas de miracle, certes, mais on améliore le quotidien souvent aussi.
Est-ce que vous avez constaté depuis quelques années, parce qu'on parle beaucoup de cette jeunesse qui est impactée par, par des maladies, par des dépressions, est-ce que vous constatez en effet une recrudescence des cas ?
Bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'un des enjeux de santé mentale dans ce pays, mais pas que dans ce pays, dans tous les pays occidentaux, et après les autres sans doute aussi. Oui, la jeunesse est en souffrance psychique aujourd'hui. Elle a toujours été un peu, le passage de l'adolescence à l'adulte, ça a toujours été un moment compliqué, mais là, elle est d'autant plus que le monde qu'elle voit aujourd'hui est parfois un monde plein d'anxiété. Et en même temps, on a connu l'époque de la pandémie qui a mis en place des coupures sociales. Isolés, les jeunes se sont retrouvés désemparés face à cet événement. On n'y était pas préparé, mais alors eux encore moins. Et aujourd'hui, les modes de communication aussi, par exemple, qui sont très déstabilisants, les réseaux sociaux, qui sont sans doute des choses extraordinaires, mais en même temps, ça peut être aussi la pire des choses. Et les jeunes aujourd'hui sont en contact fort avec ces réseaux sociaux, et ça peut vraiment les affecter. On voit qu'il y a plusieurs paramètres aujourd'hui qui font que la jeunesse est de plus en plus touchée, nous interpelle, et les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Et si on veut que cette société ne souffre pas de ce problème de santé mentale de manière trop forte, il faut s'en emparer. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens, on n'a pas... Alors nous, une AFAM, on souhaiterait avoir encore plus de moyens, mais on n'a pas. Au niveau de la politique de santé, malheureusement, alors c'est sûr, ça a progressé si on revient 60 ans en arrière. Heureusement que ça a progressé, mais on est encore très loin. Le travail, il y a encore beaucoup de travail à mener, beaucoup de choses à faire. Et les soignants, souvent, sont avec nous sur ce travail et comprennent de plus en plus que les choses doivent évoluer et que notamment, les aidants doivent être dans le cycle du soin. Ça c'est important. À une époque, on considérait que les aidants, les familles, c'était le problème, mais non, c'est souvent la solution, et ils le comprennent de plus en plus. Notamment, on pourrait parler du programme de psychoéducation, bref, qu'on est en train de développer avec le centre hospitalier d'Auch, entre autres, mais sur l'ensemble de la région et de la France entière, qui est un programme à destination des aidants et qui permet de prendre en charge les aidants au tout début, de manière précoce, une maladie, mais quelle que soit la maladie aujourd'hui, si elle est pris tôt, un cancer aujourd'hui, si elle est pris tôt, vous avez toutes les choses de vous en sortir, si elle est pris tard, c'est la même chose. Et pour la santé mentale, c'est la même chose. Plus on prend tôt le problème, plus facilement on le règle. Si on laisse traîner, on met les choses sous le tapis, ben on va se retrouver avec des situations très compliquées.
Alors, les maladies sont relativement dures à diagnostiquer en plus. Hein. Je crois qu'il faut de l'ordre pour diagnostiquer, avoir un bon diagnostic, qu'un diagnostic soit posé. Donc, pendant 10 ans, il peut y avoir des phases pour les aidants, pour l'entourage, d'incompréhension, d'anxiété, d'inquiétude.
Une AFAM à Auch se situe au 41 rue Jeanne d'Albret. Est-ce qu'il y aura un numéro de téléphone pour se renseigner ?
07 83 54 79 31.
Ah, c'est un site internet.
Un site internet, unafam.org, voilà, sur lequel vous avez accès, notamment à d'autres services, qui sont une ligne d'écoute, d'une assistance juridique, des psychologues, ça c'est au niveau national, et toute personne peut y avoir accès, notamment la ligne d'écoute, elle est ouverte à tout le monde, adhérent ou non adhérent. Alors par contre, une petite précision sur la rue Jeanne d'Albret, c'est pas une permanence, les gens ne peuvent pas se présenter ici, voilà, c'est notre siège officiel, mais nous sommes hébergés par l'association tutélaire du GERS, donc on peut pas, on pourra faire sans aucun doute à terme des rendez-vous ici. Pourquoi pas un jour des permanences à des dates bien prévues. Dans l'immédiat, c'est pas le cas. Donc le mieux, c'est de passer soit par la boîte mail, unafam.org,
par le site internet.
Par le site internet aussi, pour avoir des informations, ou par le téléphone. Voilà, c'est vraiment pour l'instant là. Et puis les moments où on est dans la ville, je dirais, il y a des moments où on va participer à des événements, des forums, des aidants, des choses comme ça. Et de venir et d'adhérer aussi à l'UNAFAM, parce que l'avantage quand vous adhérez à l'UNAFAM, vous êtes destinataire de toute l'information diffusée tant par le national que le régional ou le départemental. Et donc on a des réunions régulières des adhérents. Cet après-midi on en a une. Ça permet d'avoir, de garder ce contact et de ne pas être seul face à la maladie du proche.
Voilà, à l'instant, vous avez entendu Michel Comte, délégué régional pour l'Occitanie et de l'UNAFAM, et Christian, qui est bénévole. Ils étaient tous les deux au micro de Pauline Cazier, qui a également fait sa rentrée sur Radio Présence.
des gosses au fond de HLM. Y'en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté d'un de l'air. Y'en a même qui militent dans la rue avec tracts et banderoles. Y'en a qui ont peur plus de jouer les sex symboles. Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle j'en peux plus. Mademoiselle boit du rouge, mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche des vitrines. Et la mer. C'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle j'en peux plus. Soyez pas trop jalouse. Mademoiselle pas du rouge. Mademoiselle chante le blues. Vous êtes là du gospel dans la voix. Elle y
chante le blues, Patricia Cass un instant, à 12h, passé de 28 minutes sur Présence.
Présence dans la cité mariale, 96.
Et à la mi-journée, nous allons faire un point sur l'actualité dans notre région, en compagnie aujourd'hui d'Éric Leclerc, qu'on salue bien sûr. Bonjour Eric.
Bonjour, journée d'action Bloquons tout, aujourd'hui un peu partout en France. Attention, si vous vous déplacez, des perturbations sont attendues aujourd'hui dans les transports, sur le rail, dans les airs et sur les routes. Certains établissements scolaires pourraient être également touchés par ce mouvement. Il en sera de même dans plusieurs hôpitaux. À Toulouse, une manifestation est prévue à 14h30 aux allées Jean Jaurès. Protéger durablement les habitations face au risque de gonflement des sols argileux, l'État engage une expérimentation de prévention dans les départements du Gers, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Les épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols fragilisent chaque année des milliers de maisons individuelles en France. Ce phénomène naturel provoque l'apparition de fissures qui peuvent compromettre la solidité des bâtiments et la sécurité de leurs habitants. Les coûts de réparation se sont considérablement accrus au cours des dernières années. Pour accompagner les ménages et préparer l'avenir, l'État met met en place à titre expérimental une aide à la prévention. Ce dispositif permettra aux propriétaires occupants de maisons situées dans les zones les plus exposées de bénéficier, sous conditions de ressources, d'une subvention pour financer des prestations de diagnostic et de travaux préventifs. L'objectif est de tester et d'évaluer les solutions les plus efficaces dans la perspective d'une éventuelle généralisation de ce dispositif. 35 minutes seulement pour relier Muret à Toulouse avec la 117 Express de Bassocombo à Muret, gare, en passant par Roc et Portet-sur-Garonne. La 117 Express offre une desserte privilégiée aux grandes zones d'activité commerciale et industrielle du secteur afin de proposer des connexions directes aux emplois. Avec ce nouveau service, plus de 19 000 emplois sont accessibles avec des arrêts spécifiquement pensés pour les actifs et habitants de ces zones. Ouverture des inscriptions pour la Rose de Rodez. La ville de Rodez vous donne rendez-vous le 12 octobre au Hara pour une course au profit de la lutte contre le cancer du sein. Cette matinée est placée sous le signe de la prévention et de la convivialité. L'intégralité des recettes sera reversée au Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers, ainsi qu'à la Ligue contre le Cancer. Les 2000 premiers inscrits recevront un t-shirt floqué aux couleurs de cette nouvelle édition. La région Occitanie lance le renouvellement du Conseil régional des jeunes. 2 ans après son installation, à l'issue d'une large concertation, espace d'expression et de proposition, cette instance participative permet à la région de poursuivre son ambition, faire de l'apprentissage et de l'exercice de la citoyenneté un pilier de son action en faveur de la jeunesse. Jusqu'au mardi 30 septembre, tous les jeunes de 15 à 29 ans résidant en Occitanie peuvent déposer leur candidature pour faire partie des 60 nouveaux membres de ce conseil.
Un grand merci à vous, Éric Leclerc, pour le journal de la mi-journée. La prochaine édition, ce sera 13h. Cette fois-ci, ce sera l'information nationale et internationale avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Nous en avons un petit peu parlé la semaine dernière avec la libraire de la librairie Bleu et Or. Eh bien, nous allons continuer à échanger avec elle cette fois-ci sur la rentrée littéraire. Oui, mais les chiffres, et vous allez voir que les chiffres sont quand même assez incroyables.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arrabal, Philippe Subercase.
Toujours bon pied, bon œil. Ah, mais dites-moi, alors les auditeurs n'ont pas l'image et des fois c'est pas plus mal. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe. Je sais de quoi vous allez parler. Bonjour Diego Arrabal.
Bonjour les deux Philippe.
Mais vous avez des nouvelles lunettes.
Tout à fait, qui sont roses.
Qui sont roses.
Ça vous surprend.
Tout à fait. Ça vous met le teint.
Bah voilà, joli teint. J'ai toujours eu le teint rose. Hein, qu'est-ce que vous voulez ? C'est le vieillissement, ça. Hein. On a un teint rose. En fait, Diego Arrabal a de l'avance sur moi. Donc je pense qu'il confirmera, c'est ça ? Nous, on a le teint rose.
Ben oui, nous avons le teint rose et les cuisses aussi. Et parce que nous mangeons beaucoup de carottes.
De carottes, voilà. Mais c'est vrai en plus. En plus, vous voyez, je mets de l'huile de carotte. Vous voyez, c'est pour quand je vais au soleil. Donc c'est pas.
C'est magnifique.
C'est très efficace.
Et puis surtout, tout le monde est intéressé d'avoir ce genre de renseignements.
Exactement.
Un jour, un livre en auteur.
Mais un jour, un livre en auteur parle aussi, vous voyez, des soins du visage, vous voyez, finalement.
Exactement. Et nous parlons de livres, bien sûr. Et puis, on est toujours cette semaine avec notre invité que Lucie vous allez nous présenter.
Alors, on est toujours cette semaine donc avec Lucie Plessala, puisque la semaine passée, nous avons fait avec elle donc un quartier libre, correspondant donc effectivement à la rentrée littéraire 2025, mais pas que. Hein, Lucie a aussi parlé de mangas, de livres jeunesse, qui ne sont pas dans la rentrée littéraire. Et on vous retrouve aujourd'hui, Lucie Plessala, pour parler effectivement du volume de livres, voilà, de la rentrée littéraire.
Et on s'est posé.
Et des arcanes.
Et on s'est posé.
Pas 17, hein, des arcanes.
Mais 17 aussi.
17 aussi.
Et donc on s'est posé des questions légitimes sur cette rentrée littéraire. J'aimerais poser des questions, puisque c'est la rentrée littéraire et que nous sommes avec une libraire. J'ai vu que pour cette rentrée littéraire, il y avait 484 livres, dont 344 romans. Ça, c'est pour la rentrée littéraire de septembre 2025 de cette année. Et par contre, là où je m'interroge, c'est le pourquoi. parce que lorsqu'on regarde un peu les chiffres à l'intérieur, les auteurs débutants ou peu connus, le tirage est à peu près de 350 livres.
Oui.
70% des ouvrages, tout auteur confondu, c'est inférieur à 500 exemplaires vendus.
Oui, la moyenne de vente, c'est 80 exemplaires. Ouais.
10% des livres en moyenne, c'est entre 500 et 700 exemplaires vendus. 10% des livres, c'est entre 700 et 1000 exemplaires vendus. Et seulement 1% de tout ce qui sort sera supérieur à 2000 exemplaires.
Et 2000 exemplaires, tout à fait.
Comment c'est possible, comment c'est possible qu'il y ait autant de gens qui écrivent pour en fait, le tirage moyen, c'est moins de 350 exemplaires. C'est juste pour se faire plaisir. C'est comment on le finance, qui paye, est-ce que l'État finance ce genre de choses, est-ce que c'est ça aussi la culture et que ça n'a pas de coût et qu'il faut, parce que vous imaginez le nombre de livres qui sont, que les gens publient et qui ne seront jamais lus par personne.
Et qui sont pilés. On va laisser Diego Arabal répondre.
C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a, c'est une sorte de boutade, hein, mais il y a davantage de gens qui écrivent que de gens qui lisent.
Ben oui.
C'est pas tant la quantité de livres qui aujourd'hui pose problème, parce que dans les années précédentes, on avait aussi, et puis il y a 10 ans, il y avait 300, 400 titres qui sortaient à la rentrée. Donc c'est pas tant la quantité de titres qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a réellement une crise de lecture, c'est-à-dire que les personnes lisent moins. Alors, elles lisent moins, ou du moins, elles achètent moins de livres, parce que les livres sont chers, parce que c'est cher à produire, mais les livres sont chers, et donc, les lecteurs font des choix en fonction des moyens dont ils disposent. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de sorties, mais il y a peu de lecteurs qui sont en mesure d'acheter, comme il y a quelques années, 10 livres ou 15 livres sur l'année. Aujourd'hui, les gens sont... Aujourd'hui, un lecteur, il est autour de 3-4 livres par an. Donc on a énormément perdu en termes de lecture. Alors pourquoi est-ce qu'on...
Alors qu'on a augmenté en termes de population.
On a augmenté en termes de population. Mais ce qui fait qu'on a une pléthore de lecture, du moins de sorties, c'est aussi le fait qu'il y a des auteurs de talent qui mérite une chance, et donc les maisons d'édition les sortent parce que il faut bien tester, sachant que ça ne fonctionnera pas forcément. Et puis ce qu'on voit comme fonctionnement, c'est qu'en fait des auteurs très connus vendent sans problème, et que les jeunes auteurs, sauf exception, ont beaucoup de difficultés à être lus, parce que le fonctionnement des librairies, alors pas les librairies indépendantes, mais les librairies institutionnelles, hein, je ne citerai pas de nom, mais les grosses librairies, mettent en avant les connus, parce que c'est ça qui va attirer le chaland. Le problème, c'est que quand vous mettez en avant des gens très connus et qui vont attirer le chaland, la baisse du pouvoir d'achat, pour le dire sous cette forme-là, fait que le lecteur, il va acheter un bouquin, mais il va pas acheter le bouquin qui est à côté, qui est peut-être très 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 bien, mais où il n'a pas les moyens d'acheter deux livres. Il en achète un.
Est-ce qu'il n'y a pas... Là, on a une libraire. Quelle est sa vision de ce que je dis ? Parce que des fois, peut-être tout simplement, il y a des gens qui écrivent parce qu'ils ont des problèmes à régler personnels, et c'est une sorte de thérapie d'écrire un livre, et on le sort et il sera lu par personne, mais au moins il a été écrit. Quel est votre regard là-dessus ?
Alors, pour avoir échangé avec certains auteurs, il y en a beaucoup, ils écrivent vraiment pour le plaisir. Il y en a aussi qui en effet écrivent parce qu'ils en ressentent le besoin pour sortir. C'est vrai que souvent au moment de la rentrée littéraire, d'ailleurs, on a cette impression-là que des auteurs écrivent pour évacuer, faire un peu une thérapie en fait auprès des lecteurs. C'est vrai qu'on a un petit peu cette sensation-là, mais d'autres vraiment écrivent autrement pour le plaisir. C'est vrai que c'est le plaisir d'écrire. Alors quand ils sont publiés, c'est encore mieux, mais avec vraiment l'idée de pouvoir écrire les idées qu'ils ont dans leur tête, en fait.
Mais est-ce que, excusez-moi, Philippe, juste pour terminer, mais alors, vous, quel regard vous portez sur ce nombre de livres qui sortent chaque année? Parce que, quelque part, on se dit, si on le vend pas, quoi ça sert de... On peut écrire pour le plaisir et puis le faire lire à des amis ou à envoyer des PDF pour lire, mais de passer à ce que le livre soit écrit et mis en librairie, quel est votre regard là-dessus, vous qui recevez pléthore de propositions et voyez bien, je ne sais pas, vous, dans votre librairie, qu'est-ce qui part? Vous êtes dans une zone de montagne, je pense que les gens qui franchissent aussi votre librairie, c'est pour aller se documenter sur ce qu'ils ont devant les yeux, c'est-à-dire la montagne, puisque vous êtes en Vallée d'Or.
Oui, j'ai évidemment beaucoup de clients qui viennent pour les livres sur les Pyrénées, mais ce n'est pas ma clientèle majoritaire. Il y a beaucoup qui viennent vraiment pour s'évader, pour trouver... des romans ou des livres pour s'évader notamment, et je pense que justement ma vision de la librairie, du libraire, c'est de trouver le livre qui va correspondre à telle personne, parce que pour moi chaque lecteur peut trouver son livre, mais après c'est vrai qu'on entend beaucoup les personnes qui viennent chercher un livre en particulier parce qu'ils en ont entendu parler ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, chaque lecteur peut avoir son auteur, peut découvrir un livre. Et enfin, chaque livre peut avoir son lecteur particulier, en tout cas.
J'avais juste une question, Lucie Plessala. Bon, aujourd'hui, vous êtes invité pour votre quartier libre, on le voit bien. Vous n'avez pas mis en avant des livres très connus, hormis Olivier Adam, Violaine Béraud, bon, qui sont deux écrivains connus. Tout le reste, c'est effectivement des livres qui ne sont pas connus. Qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à ce que disait Philippe Subercase? On en parlera dans les semaines à venir ici, du livre de Cédric Sapin de Four, Son odeur après la pluie, qui a été vendu à 650 000 exemplaires, hein, qu'on va présenter en poche. Je rebondis sur la remarque de Diego Arrabal, parce qu'en poche, eh ben, il est à 8,90 €. Quand il est sorti, il devait être à 15 ou 16 euros. Donc on voit qu'à un moment donné, ben, on peut acheter deux livres pour un. Comment vous avez perçu ce livre, Son odeur après la pluie, qui a été très bien vendu en librairie, alors que personne s'y attendait?
C'est vraiment le bouche à oreille qui a fonctionné pour ce livre. Hein. Personnellement, je ne l'ai pas lu, toujours pas.
Je vous le recommande.
Mais oui, je sais, il faut que je le lise, ce livre, mais j'y vais à reculons, j'ai peur de pleurer. Mais par rapport au retour que j'en ai, j'ai peur de pleurer. Mais après, je pense qu'en effet, il y a le côté, justement, le bouche à oreille qui a très bien fonctionné et qui a fait que c'est un des livres qui a beaucoup marqué la rentrée de l'année dernière.
La rentrée de l'année dernière, et puis je vais vous dire, bon, c'est un livre en plus qui est écrit dans une langue absolument magnifique. Il y a un champ lexical qui est très large, hein. Il n'est pas écrit avec 1000 ou 1500 mots. J'ai souvent pris le dico en lisant ce livre, donc il est écrit dans une langue magnifique, et surtout il y a une réflexion autour du chien, de... Voilà, je pense que c'est ça aussi qui a plu au lecteur, de la relation homme-animal, qui fait véritablement réfléchir. Et comment cette relation homme-animal peut, à un moment donné, dans le monde...
Alors, vous allez nous en parler, Philippe, mais là on est sur la rentrée littéraire, sur le livre, et on entend partout parler de crise économique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut tenir encore? Parce que je pense que la culture, c'est financé, tout ça, c'est... Il y a de l'argent public, on se fait plaisir encore un petit peu, non?
Il y a le prix unique du livre. Il y a le prix unique du livre, ce qui est quand même une exception.
Alors, le livre n'est pas soutenu par de l'argent public, contrairement aux journaux. Les livres sont parfois soutenus, c'est-à-dire les maisons d'édition sont soutenues sur des projets par des agences régionales. Par exemple, nous, dans la région, dans notre région, c'est Livres et Lectures Occitanie qui soutient des projets, mais qui soutient, je vais prendre le cas des éditions Arcane 17, nous soumettons tous les ans deux projets. Et nous sommes soutenus une fois, disons, sur les deux projets, on est généralement soutenu sur un des projets et ça tourne autour des 1500, 1600 euros, c'est-à-dire en gros entre 30 et 50% du prix de fabrication du livre. Donc, vous voyez que, et nous, on sort une douzaine, entre 12 et 15 livres par an. Donc, ça veut dire que le soutien public est important pour des livres dont nous savons qu'ils auront du mal à vivre, mais qui méritent d'être portés au public. Mais je crois qu'il ne faut pas s'imaginer que les pouvoirs publics financent de façon forte les maisons d'édition. Les maisons d'édition font des choix. Elles vont publier des auteurs qui vendent beaucoup, et ce qu'ils vont publier en nombre va permettre de sortir des auteurs sur lesquels ils font le pari que ça risque de marcher, ou du moins qu'ils méritent d'être connus. Mais c'est, c'est pas un domaine dans lequel on s'enrichit. Quand je dis on, c'est les maisons d'édition, s'enrichissent en faisant des livres. Elles font un équilibre entre ce qui va rapporter beaucoup et ce qui va rapporter moins, mais qui mérite d'être mis en avant. Ne pas oublier que dans une maison d'édition, une grande maison d'édition, comme Flammarion ou autre, c'est entre 200 et 300 manuscrits reçus par jour.
C'est énorme.
C'est énorme. Nous, au niveau Arcane 17, sur 15 bouquins qu'on sort par an, on reçoit en gros une dizaine de propositions par jour. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions des choix. Et nous faisons ces choix en fonction non pas de la, du fait que tel auteur il va bien vendre, mais parce que nous pensons que tel ou tel titre, tel ou tel thème vaut le coup et que l'auteur a écrit quelque chose de façon qui nous plaît dans la façon de l'écrire, dans la façon de raconter, etc., etc. Donc on va s'appuyer là-dessus. Nous, on publie des gens parce que, par ailleurs, nous avons des auteurs et nous avons des soutiens parce que nous faisons aussi d'autres types de livres et que nous avons des contrats que nous passons avec des associations ou autres qui financent les livres qui vendent. Et donc nous, ça nous permet, sur nos fonds des ventes que nous on fait, de pouvoir privilégier des auteurs où on se dit, bon, s'il en vend 50, 100, 150, nous, notre équilibre, c'est à 300. Hein. S'il en vend 100, 150, on a quand même reçu de l'argent par ailleurs parce qu'on a fait des projets avec des institutions et que cet argent-là nous permet de faire fonctionner et de produire un livre dans lequel nous croyons. Mais c'est un coup de poker.
Et alors vous, qui êtes libraire, comment ça se passe aujourd'hui, la sélection, les livres qui sont dans votre librairie? Donc il y a un turnover, si je comprends bien, puisqu'il y a plus de 500 livres, là, 400 et quelques, là, cette année, en septembre. Je crois qu'il y a une autre rentrée littéraire
en janvier. Et puis en janvier, il y a tous les autres livres avant.
Oui, et bien, donc, alors comment ça se passe? Comment on fait pour sortir un livre, en mettre un autre? Comment ça se passe?
Alors on fait des choix et là c'est on va un petit peu au feeling en regardant un peu les thèmes qui sont abordés, comment on va pouvoir les présenter. On sait qu'on pourra pas tous les lire en plus, donc il faut faire vraiment des choix un peu aussi selon les coups de cœur des auteurs, les auteurs qu'on aime bien, on essaye de les prendre aussi. Enfin, c'est des choix un peu.
Donc ça veut dire que quelque part, chaque librairie a sa personnalité, a ses livres qui correspondent quelque part au propriétaire de la librairie.
Complètement, on va avoir des livres différents à présenter. On a bien sûr des livres semblables, mais à côté de ça, on a des livres différents.
D'accord.
On propose chacun...
Mais ça c'est spécifique aux librairies indépendantes, hein, Lucie. Oui. Dans les grandes chaînes de librairies, ça ne se passe pas du tout comme ça, quoi.
Mais non, souvent, eux, ils reçoivent leurs livres sans qu'on leur demande leur avis.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, et en même temps, ils reçoivent ce qu'on appelle les têtes de gondole. Et là, c'est quelque chose que j'ai découvert, moi, l'année dernière, en travaillant aussi avec notre diffuseur. C'est qu'on a les diffuseurs des grosses maisons d'édition. Elles placent leurs 3 ou 4 poulains en tête de gondole, mais elles exigent que le libraire d'une chaîne prenne 30 ou 40 bouquins dont ils savent qu'ils ne seront pas vendus, mais qui vont empêcher des éditeurs, des petits éditeurs ou des éditeurs indépendants d'être pris par ces chaînes-là. Nous, l'endroit où on est le mieux représenté, c'est les libraires indépendants, c'est nos partenaires directs, quoi. Les grandes chaînes, eh ben, on a la chance parfois de pouvoir présenter, mais c'est les libraires indépendants qui nous font vivre.
Quand vous dites les grandes chaînes, c'est les Cultura.
Voilà, c'est ça. Oui, oui. Non, je voulais pas citer de marques, mais Fnac, Cultura. Ben vous avez aussi des chaînes de librairies. Il existe des chapitres. Je sais pas s'ils fonctionnent encore, etc. Mais on a des grandes chaînes comme ça qui ont des acheteurs. Et à un moment donné, ils avaient des libraires. Il n'y a plus de libraires dans ces grandes chaînes. Ce sont des acheteurs. Et ces acheteurs sont sollicités par les diffuseurs des grandes maisons d'édition. Et les maisons d'édition, les grandes maisons d'édition, mettent donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les têtes de gondole, ceux dont ils savent qu'ils vont vendre. Et puis, ils bloquent en mettant d'autres livres. Alors, d'une part, pour les
vendre. Ça veut dire que sur le nombre de tables, ils prennent des mètres carrés.
Voilà.
Qui ne peuvent pas être libérés.
Ils leur disent, on vous donne, parce que vous voulez aussi, par exemple, allez, je vais pas citer Bussy. Vous allez avoir 100 Bussy à vendre sur l'année. Mais vous allez nous prendre à côté de ces 100 Bussy dont vous êtes sûr que vous allez les vendre. Vous allez avoir 3-4 de exemplaires d'une dizaine de titres différents que la chaîne est obligée d'exposer. Or, la place n'est pas infinie. Donc, tout ce qui est pris par ces petits livres, qui de toute façon ne seront pas vendus, c'est autant de prix sur les libraires, sur les éditeurs indépendants.
C'est ça s'appelle du commerce.
Ah ben c'est le commerce, oui.
C'est du commerce.
Parce qu'on sait que l'économie. Dans les chiffres, on continue. Je crois qu'un auteur va toucher entre 1 et 2 euros.
Donc s'il a c'est 10%, il touche à peu près 10% du prix hors taxe.
Du prix hors taxe. Du prix hors taxe. Pas du prix TTC. Du prix hors
taxe. 14 euros, on est 1 euro. Je veux dire, c'est pas là où on fait fortune, sauf si effectivement. Le livre devient.
Mais donnez un chiffre, Philippe Supercaz. On va dire, par exemple, vous touchez 1,40€ sur le prix hors taxe, vous vendez 1000 exemplaires, vous avez touché 1 400€.
Voilà.
Vous en vendez 10 000, vous en avez vendu, vous avez touché 14 000. Mais on va mettre en perspective avec les chiffres que vous avez donnés.
Mais les
c'est-à-dire
chiffres,
que là, c'est les 1%, quoi.
Ouais, les 1%. Et donc, voilà. On va dire, si on vend 200 livres, on va se faire 200 euros, quoi.
Mais 240 euros.
240 euros.
Oui. Voilà. C'est un petit week-end à l'océan.
Ouais. Et encore, vous allez les recevoir en une fois au bout d'une année.
Voilà. Donc, en fait,
alors, vous ne le recevez pas tous les mois.
Qu'est-ce qui explique, en fait, aujourd'hui, le nombre de tapuscrits là, que vous recevez, qui est colossal, le nombre, quand même, qui est important de livres qui sortent chaque année, et en fait, le peu qui est acheté est lu.
Mais c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre. Alors après, on posera la question à Lucie, mais il y a un déséquilibre extraordinaire entre la production de tapuscrits et ce qui est vendu. C'est-à-dire que ce qui est en magasin pour être vendu, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui est écrit.
Ouais.
Et ce qui est vendu sur ce qui est en magasin, c'est aussi une goutte d'eau par rapport à ce qu'il y a en magasin. La durée de vie d'un bouquin, aujourd'hui, c'est 6 mois. C'est-à-dire entre deux rentrées. Au bout de 6 mois, s'il n'est pas vendu... Ben, généralement, les libraires les font remonter.
J'ai l'impression que même dans des... on va dans une librairie, par exemple, au mois de mars, on y revient au mois de mai, on ne voit plus du tout le même livre.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, au bout de 2 mois, déjà, ça tourne. Alors, il y a les très gros livres, comme disait Philippe Supercaz, c'est-à-dire les 1% qui vont toujours y être, et puis tout ce qui ne marche pas, effectivement, et c'est pilonné.
On détruit.
Oui.
On détruit.
Sauf si la maison d'édition vient les récupérer. Et ça existe quasiment pas. Les livres sont pilonnés.
C'est incroyable. Quand même. C'est incroyable. Ouais. Donc en fait.
On vous a démoralisé là, je sens Philippe.
Non, mais pour moi,
il commençait à lire, il commençait à s'intéresser à la lecture.
Ouais, vous a déçu. On n'aurait pas dû parler de ça. On a eu tort.
Je suis effaré que je sais pas. J'arrive pas à comprendre que il y ait ce nombre de gens qui écrivent. J'ai quand même des fois plus l'impression que les gens qui écrivent, c'est vraiment pour un plaisir personnel et bon, et ils seront jamais lus.
De toute manière, il y a toujours eu, Diego Rabal l'a très bien dit, il y a toujours eu une surproduction littéraire. Depuis toujours en France, il y a eu une surproduction littéraire. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier, ça continuera demain, ça continuera après-demain.
Ce qui est nouveau, c'est l'inflation de cette surproduction. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait plein de gens écrivent. Il y a 20 ans, plein de gens écrivaient, mais... Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, des gens écrivaient et mettaient dans un tiroir. Depuis une trentaine d'années, on a écrit, donc on veut que ça soit publié.
Non, on est persuadé que
la plupart du temps, les auteurs...
C'est un problème d'ego.
Je ne sais pas si c'est un problème d'ego, mais
on peut le dire, oui.
Mais en tout cas, la plupart du temps... un nombre important d'auteurs, ce qui est important, c'est d'être édité, c'est pas d'être vendu. Et nous, on a ce problème-là, c'est-à-dire que quand on a un auteur où ce qu'il nous a proposé nous plaît, nous, on insiste beaucoup auprès de lui sur le fait que le fait d'être édité n'est que le début d'un chemin. Et que pour que son livre
vive,
il faut que lui, là, il y a des salons, donc on l'inscrit, on le soutient pour y aller, c'est-à-dire qu'on lui paye les déplacements, etc. Parce que c'est un livre, ça, il commence à vivre une fois qu'il est imprimé, il n'existe pas avant. Et que une fois qu'il est imprimé, il faut que l'auteur comprenne que écrire c'est une chose, mais faire vivre son livre, ça n'est une autre. Et que s'il ne veut que écrire, il garde son manuscrit parce qu'il ne sera pas publié.
Voilà pour cette rentrée littéraire 2025.
C'est très dur ce que j'ai dit.
C'est parce que j'ai écouté aussi l'émission sur France 2 qui parlait de la rentrée littéraire et qui donnait ces chiffres qui sont. Incroyables. Quoi.
Ouais, Philippe Suarcas, je sens que vous allez finir sous Prozac. Après cette émission, je sais pas pourquoi, mais je vous sens une voix très dépressive. Là.
J'ai l'impression que voilà, tous ces libraires indépendants, c'est des guerriers. Quoi. C'est vraiment
ce sont des guerriers, oui.
Tout à fait.
Vous confirmez, Lucie Blessala?
On se donne à fond, en tout cas.
Il y a pratiquement pas de quelque chose d'économique derrière, quoi. C'est plus une volonté,
c'est une vocation.
Et ça tient. Enfin, je me demande des fois comment ça peut tenir, quoi. Voilà.
Mais moi, c'est pour ça. On a invité Lucie Plassala aujourd'hui pour son quartier libre, donc pour nous présenter des romans, des mangas, etc. Il faut aller voir Lucie Plessala. On l'invite pas par hasard dans Un jour, un livre, un auteur. C'est que c'est une vraie libraire. C'est-à-dire, elle fait des choix. Vous avez bien vu les choix qu'elle fait. Il n'y avait pas que des choix de la rentrée littéraire. C'est-à-dire qu'ils lui sont imposés effectivement par des éditeurs. C'est des livres qu'elle a lus, qui lui parlent. Et qu'elle a envie à un moment donné de porter. Pas de vendre, de porter. Donc je pense que ça, c'est voilà. Et nous, on est là pour ça aussi. Un jour, un livre, un auteur. C'est aussi de parler effectivement de ces livres dont personne ne parle, mais qui nous ont parlé à nous. Et on se dit qu'ils pourraient peut-être pas parler à d'autres. C'est tout l'intérêt de cette émission littéraire. C'est une belle fin, ça, non? Une belle conclusion, Philippe Suarcas. Là, je pense que vous allez visiter le cachet de Prozac, du coup.
Voilà, je vais finir la tablette. merci beaucoup, toujours, à Lucie Plessala.
Merci, Lucie.
Elle est fidèle et on l'appelle régulièrement. Et on va rappeler où c'est que sa librairie se trouve.
La librairie Bleu et Or, donc à Saint-Lary-Soulan, qui est dans la rue Mire. Et on recommande, effectivement, puisqu'on est écouté sur toute l'ancienne région Midi-Pyrénées, à tous ceux qui viennent en vacances dans la Vallée d'Or à Saint-Lary-Soulan pour faire du ski, de la montagne, enfin tout ce que vous aimez faire comme activité donc de montagne, vraiment d'aller voir cette librairie qui est une librairie extraordinaire qui est ouverte tous les jours en plus.
Et même à Noël, ça c'est toujours quelque chose qui m'épate.
Ah, mais voilà, ça c'est Lucie Plessala. C'est ça la vocation, hein, Philippe Subercas. C'est même le jour de Noël, voilà, elle est ouverte. Merci beaucoup en tous les cas, Lucie Plessala, pour nous avoir accompagnés pour votre quartier libre dans Un jour, un livre, un auteur. On vous dit à très bientôt. Merci.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercas. Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Que le cri des personnes qui souffrent de la guerre s'élève comme une prière, les mots du pape Léon XIV lors de l'audience générale.